Vous écoutez Du vent dans les plumes, la chronique qui ébouriffe les pages et donne des idées de lecture sur CFM Radio.
En partenariat avec la librairie Du vent dans les plumes à Cordes-sur-Ciel.
Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec.
Ah bon ? Elle est bretonne ?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi, ça va péter dans 15 secondes.
C'est chouette comme métaphore, non ?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Bonjour à tous, c'est Julie pour la chronique du vent dans les plumes. Alors, dans cette grisaille, j'avais envie de vous parler de coup de cœur vraiment récent, du mois de janvier. Donc ça va être essentiellement des autrices, figurez-vous. Bon, je ne fais pas exprès, hein. C'est juste que vraiment là, il y a des choses magnifiques. Donc la première dont j'ai envie de vous parler, c'est Cécile Coulon. Cécile Coulon qui avait écrit Une bête au paradis, qui avait écrit La langue des choses cachées, un sublime roman. Elle vient de sortir du coup au mois de janvier, début janvier, Le visage de la nuit aux éditions L'Iconoclaste. Du coup, au niveau du pitch, c'est vraiment un jour dans un hameau un peu mystérieux. Il y a un garçon de 7 ans qui survit à une fièvre mortelle. Il y a un guérisseur à ses côtés, mais son visage va être dévoré puis recraché par la maladie. Il se réveille défiguré. On dit qu'il est un monstre. Son père est un être violent et que personne n'aime. Et son père devient fou à la vision de son enfant, de son fils, qui est devenu un monstre. Il prend la fuite, devient fou et l'abandonne. Du coup, ce jeune garçon, du coup, qui s'appelle l'enfant, ce qui est assez intéressant dans le roman là, de Cécile Coulon, c'est qu'il y a l'enfant, le prêtre, madame et la jeune femme. Voilà, donc c'est vraiment... C'est très... Il n'y a pas de prénom, c'est vraiment assez jouissif, c'est plutôt des figures en fait auxquelles ça nous renvoie. Du coup, le prêtre du village et l'ancienne institutrice aveugle, qui s'appelle Madame, recueillent cet enfant et ils vont l'élever dans l'église. Petit à petit, ils essaient de le tourner vers la lumière, ils l'accompagnent dans la formation de son esprit. Leur affection grandit, ça devient presque un fils pour eux. Et au fil de ces rituels immuables, on est dans ce quotidien austère, mais cet enfant est rendu invisible du coup aux yeux des hommes, duquel il faut le cacher parce que personne n'est capable de supporter cette monstruosité. Ils ont très peur de ce qui pourrait lui arriver. Et cet enfant, lui, trouve refuge et liberté la nuit. Donc la nuit, lors de ses sorties en forêt. Donc Cécile Coulon écrit « L'aube était sa pire ennemie, le crépuscule sa chance », parce que c'était le moment où il pouvait cacher sa laideur dans la nuit et dans la forêt. Jusqu'à ce qu'une nuit, il rencontre une jeune fille qui, elle aussi, est porteuse de secrets. Donc dans ce roman, on est vraiment dans une fable gothique, assez sombre, assez noire, et Cécile Coulon, qui est une poétesse, qui est jeune, hein, qui a 35 ans, je crois, qui est vraiment issue aussi de la poésie. Elle va travailler vraiment dans ce roman avec une écriture et une matière organique. Je trouve qu'elle fait vraiment appel à nos sens. On sent l'odeur âcre de l'humus, on sent vraiment la terre qui se retourne, le parfum presque de la nuit dans la forêt. C'est vraiment... Elle fait appel à tous nos sens et notamment aussi avec la perception qu'on peut avoir la nuit, dans le noir, l'obscurité, de tout ce qui bruisse. C'est vraiment presque le langage organique aussi du corps. C'est, voilà. Elle déploie là une écriture poétique qui explore la monstruosité comme construction sociale et intime. On est à la lisière du conte, de la tragédie. Ça interroge la possibilité d'échapper à une violence héritée. Là, c'est un récit où vraiment, pour moi, la beauté, la monstrueuse beauté et le merveilleux, ça se confond dans un même corps, quoi. C'est vraiment hypnotique. C'est sombre, c'est élégamment écrit, c'est magnifique. Voilà, je ne saurais que vous conseiller de lire ce livre de Cécile Coulon. Je vais vous dire une petite citation que j'aime beaucoup, qu'il y a dans le livre. Vous vivrez, mais vous vivrez en monstre. Ne craignez pas ce mot, Il ne dit rien de ce que vous êtes. Il dit seulement que les hommes pensent ce que les hommes penseront de vous. Et les hommes capables du meilleur et du pire craignent le monstre quand il ne vit pas en eux. On ne répare pas les morts, on les prépare à l'éternité du regard de ceux qui restent. Ça, j'adore cette phrase, je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Pour un deuxième roman, là, c'est d'une Australienne, c'est Charlotte McConaghy. Du coup, là, moi, je viens de lire Les Fantômes de Shearwater. Donc, c'est traduit de l'anglais par Marie Chabin et c'est aux éditions Actes Sud Gaïa. Là, on est dans un gros turnover, quoi. Un page turner. Comment ils disent ça, les Américains? Je ne sais plus comment on dit. Un page turner. Je crois que c'est un truc comme ça. En tout cas, je n'ai pas réussi à décrocher de ce roman. C'est vraiment superbe. Charlotte McConaghy, c'est vraiment la romancière de l'effondrement, de la biodiversité, du vivant. Je sais que ça ne va pas ensemble, hein, effondrement, vivant. Mais voilà. Donc, elle avait fait un premier roman qui s'appelait Migration, où on suivait une jeune femme qui était lancée dans une quête autour des derniers sternes arctiques. Et l'autre roman, peut-être que vous avez lu, ou en tout cas que je vous conseille de lire, parce que je l'ai lu juste après Les Fantômes de Shearwater, c'est Je pleure encore la beauté du monde. Non, mais déjà, le titre, est-ce qu'il n'est pas sublime, quoi? Je pleure encore la beauté du monde. Donc ça, c'était un roman qui explorait la tentative de réintroduction des loups en Écosse dans l'espoir de sauver les Highlands. Voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se cache? Qui est le loup? Et voilà. Et le loup n'est pas toujours celui que l'on pense et qui se déchiquette. Ça, c'est rarement eux. Donc, en tout cas, dans Les Fantômes de Shearwater, là, elle va nous embarquer dans une petite île fictive, du coup, dans l'océan Pacifique, quelque part entre la Tasmanie et l'Antarctique. On est à 1000 km de toute côte. On est vraiment dans une toute petite île de 100 km par 80. Voilà. Il y a un homme qui vit sur cette île, un homme qui est père de 3 enfants, et il vit là avec ses 3 enfants, dans un phare. Donc après la mort de son épouse, cet homme est allé s'exiler dans cet endroit perdu qui abrite les plus grandes réserves de semences du monde. Donc c'est censé être un trésor susceptible d'aider l'humanité à replanter les végétaux victimes de la catastrophe climatique et qui sont censés être indispensables à la survie de l'humanité. Seulement voilà, Shearwater, cette île est elle aussi menacée par l'élévation du niveau de la mer. Et puis les systèmes de communication avec le continent ne fonctionnent plus, les scientifiques de la base ont tous disparu dans des circonstances troubles, voilà. Sans eux, cet homme et sa famille sont donc chargés de préparer, parmi l'immense collection de graines, celles qu'ils vont pouvoir sauver et pouvoir ramener sur le continent lors du prochain passage du navire de ravitaillement. Ça, c'est un choix qui est déchirant et qui va bientôt être bouleversé par l'arrivée d'une naufragée qui va remettre en question l'équilibre fragile de l'existence de cette famille. Qu'est-elle venue chercher à 1000 km de toute terre? Parce que Shearwater n'est pas une île touristique. Elle est trop éloignée, trop difficilement accessible. Personne ne s'aventure ici d'habitude, à part une poignée de chercheurs venus étudier la faune et la flore, le climat, les marées. Personne, en tout cas, n'échoue ici par hasard. Voilà, alors là, elle allie Charlotte McConaghy avec une grande maîtrise le sujet du coup du deuil familial, du changement climatique et tout ça sur un fond de suspense. C'est un roman choral, on peut même dire un thriller choral, donc qui est composé de personnages assez profonds et très attachants. Il y a les alternances de points de vue du coup du père et de chacun de ses enfants. Moi, j'ai adoré le plus jeune qui doit avoir 8 ans. Et lui, il est passionné de botanique. Et ses graines, pour lui, c'est vraiment son trésor. Et voilà, il se passionne pour chacune des graines. Et donc, on découvre aussi plein de petites anecdotes et plein d'histoires autour de la botanique. C'est vraiment... Et cet enfant, il est hyper touchant. Voilà, il a une autre de ses filles, sa fille qui elle est passionnée, elle vit au milieu des otaries, elle retient son souffle, elle plonge dans l'eau profonde et dans les eaux froides. Voilà, et on a vraiment l'alternance de points de vue de chacun de ces personnages et aussi de cet inconnu qui arrive sur cette île. Voilà, donc ça participe vraiment à une intrigue voilà, qui est hyper bien menée. Et puis tout ça sur un fond de message d'alerte. sur notre planète. Voilà, c'est vraiment très très bien, Les Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy. Et du coup, attention, ça, ça va être un peu pour Jacques, parce que il a vu un petit punchline que j'ai mis à la librairie. Donc là, je vais partir sur du roman jeunesse, jeunesse à partir de 13 ans. Et attention, là, c'est grosse pépite. Ça s'appelle Mille Pertuis, la sorcière sans nombril. C'est de Julia Thévenot. Et du coup, cet album-là, il est sorti en 2023 chez Gallimard Jeunesse. Donc, Mille Pertuis, mais attention, je vais y aller de ma petite punchline qui a fait craquer Jacques, d'accord ? Donc, Mille Pertuis, c'est Harry Potter en plus féminin, plus métissé, plus trash, plus drôle, plus pétillant et plus décalé. En plus, plus, bref, j'ai adoré. Voilà. C'est le premier tome d'un diptyque de fantasy inventif, chaleureux, c'est trash, c'est contemporain. C'est une histoire de sorcière qui renouvelle le genre. Alors, franchement, à partir de 13 ans, mais moi, personnellement, du haut de mes un petit peu plus âgés, je me suis vraiment régalée. Que ce soit dans sa construction, dans son rythme, l'imaginaire et les personnages qui sont développés, c'est vraiment la folie, quoi. Mille Pertuis, la sorcière sans nombril. Donc, on s'attache à Ortie. Ortie, c'est un peu la sœur du milieu qui a du mal à trouver sa place dans son monde de sorcière. C'est une petite sorcière aventureuse qui aime prendre les choses à revers et emprunter des chemins qui ne sont pas empruntés par ses autres sœurs et tantes sorcières. Et elle va enchaîner les catastrophes. Elle doit jongler Ortie entre son quotidien de petite fille lambda et sa vie de sorcière. Et son destin va basculer le jour où elle va maladroitement offrir son or à son ami d'école, Corentin, qui est non-sorcier. Offrir son or chez une sorcière, ça revient à offrir son âme, à offrir son destin. Et du coup, son nombril s'efface parce que la sorcière, elle est guidée par son nombril et par ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Donc, ça va être la quête de d'Ortie pour retrouver son nombril et pour retrouver son or. Donc avec elle, on entre dans sa famille aux côtés de ses deux sœurs sorcières. Donc Ortie a une sœur qui s'appelle Épine, qui est l'aînée, qui est détectée précoce, qui est hyper arrogante, qui pense que tout lui est dû. Elle est un peu péteuse, il y a beaucoup de portes qui claquent, elle adore faire des... Elle est très tragédienne. Et Ronce, la petite cadette, qui est trop mignonne. Moi j'adore Ronce parce que c'est vraiment... Elle est tellement déjantée. Donc Ronce, elle aime faire des tours de manège dans la machine à laver en marche. Ça, c'est son gros trip. Elle aime manger au petit déjeuner des tartines de décap-four et des pastilles de la vaisselle en guise de gâteau apéro. Voilà. Et leur mère, elle est assez flippante. C'est une sorcière très froide et terrifiante. Et puis, elle est élevée, du coup, par évidemment sa tante Vive, chez qui elle va prendre des cours de sorcellerie les mercredis après-midi. La tante Vive, du coup, c'est une vieille sorcière qui cache beaucoup de secrets, qui est bourrue mais aimante et qui enchaîne cigare après cigare. Voilà, donc ça, c'est un peu pour vous donner le cadre de Mille Pertuis avec cette famille assez faux-folle. Ici, il n'y a pas de baguette magique. Les envoûtements et les sorts ensorcelés chez la famille d'Alembrun, elle est organique et violente. Les pactes sont scellés par le crachat. Il y a des pentacles qui sont tracés avec le sang des menstruations, des règles. Chaque petit détail du quotidien apporte sa dose d'étrangeté, quoi. C'est la magie du corps, le corps même qui doit être fouillé. Donc, elle va aller chercher à l'intérieur de son corps pour voir comment c'est fait. Et donc, elle s'ouvre. Et évidemment, avec sa salive, elle peut se recoudre immédiatement. Mais elle va aller chercher et elle sort chacun de ses organes pour les regarder. Enfin, voilà. On est vraiment dans cet univers-là. C'est trash, c'est loufoque. C'est vraiment super, en fait. Voilà. Attention, dans ce roman, les sorcières et Ronce d'Alembrun particulièrement consomment un tas de cochonneries qui conduiraient directement les communs aux urgences les plus proches et dont ils ressortiraient, s'ils s'en ressortent, tout flagada. Il me semble donc important de préciser que, si vous n'êtes pas immortel, il est déconseillé de consommer de la javel fraise, du décap-four en tartine ou des crocs au sif à la place de la béchamel. Voilà, ça c'était pour Mille Pertuis, la sorcière sans nombril. Et pas de BD aujourd'hui, mais je vais finir par un titre qui est vraiment très drôle. Là, c'est en jeunesse, on va partir plutôt à partir de 6 ans. Mais bon, moi, mes enfants de 3 ans, ils ont adoré. Donc c'est Adeline Dieudonné et Arnold Ovard. Voilà. Et du coup, ça s'appelle Un élan de compagnie et c'est aux arènes. Un élan de compagnie, conseils et astuces pour s'en débarrasser. Donc là, on est sur un album, c'est vraiment une petite pépite, c'est très drôle aussi. Encore une fois, on est assez décalé. Et je me suis dit qu'au lieu de vous en parler, je vais vous lire un extrait. Je vais vous lire même le début de Un élan de compagnie. Du coup, ça a été écrit par Adeline Dieudonné. Et ça a été du coup illustré par Arnold Ovard. Alors, un élan de compagnie. C'est un problème que tout le monde a connu au moins une fois dans sa vie. Le soleil brille, vous vous promenez tranquillement dans la forêt, quand soudain, un élan commence à vous suivre. Évidemment, vous essayez de le semer, mais il finit toujours par vous rattraper. Vous reprenez donc le chemin de la maison avec lui dans votre voiture. Une fois chez vous, comme vous êtes bien élevé, vous lui offrez un café ou un artichaut. Parce que pour info, l'élan adore les artichauts. Il se fait tard, vous lui proposez la chambre d'amis. Et là, il y a une image de l'élan qui dort dans le lit de la chambre d'amis, mais évidemment, comme il est trop grand, ses pieds dépassent par la fenêtre. Au début, vous ne voyez que les bons côtés. L'élan qui, par exemple, peut vous aider à participer au barbecue. Et il faut dire que l'élan est très attachant. Et là, l'élan regarde la télévision entourée de papy et mamie. Et puis, l'élan aime danser. Mais rapidement, vous constatez certains problèmes. L'élan aime beaucoup manger. Beaucoup, beaucoup. Et vide votre frigo. Voilà. Donc, je vous donne un petit peu le ton. Et surtout, évidemment, pour votre nouvel ami, la problématique peut être le brame. Voilà, et notamment pour vos voisins. Alors, qu'est-ce que le brame? En automne, l'élan a soudain très envie de rencontrer une amoureuse. Alors, il se met à crier très fort, mais vraiment très fort. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, ça fonctionne. Mais n'essayez pas chez vous. Ça ne marche que pour les élans, les cerfs, les chevreuils ou les chanteurs d'opéra. Voilà, je vous raconte pas la suite et je vous conseille de le lire, c'est vraiment absurde, on est vraiment sur voilà, un humour, c'est humoristique, c'est décapant, c'est rigolo. Voilà, ça fait du bien, c'est un petit peu de fraîcheur et un petit peu de légèreté. Merci beaucoup, je vais vous laisser avec un titre qui va un petit peu nous secouer, qui va un petit peu nous secouer les oreilles et nous faire dresser les cheveux. Et, ça s'appelle « Trois petites chattes d'ultra moderne ». À très bientôt.
Soir, 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 soir
Vent dans les plumes, la chronique qui ébouriffe les pages et donne des idées de lecture sur CFM Radio.
En partenariat avec la librairie du Vent dans les plumes à Cordes-sur-Ciel.
Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec.
Ah bon ? Elle est bretonne ?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Bon, si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi.
C'est chouette comme métaphore, non ?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.